Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui propose toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. À tout de suite.
Bonjour, bienvenue dans le service politique, le balado des reporters politiques de BFM TV. Je m'appelle Philippe Corbet et nous venons d'enregistrer un épisode avec Alexis Cuvillier qui suit pour nous l'actualité des Républicains puisque LR doit désigner dans les prochains jours le nom de son nouveau président. Alors est-ce que ce sera ce week-end ou le week-end suivant? Ça dépendra s'il y a un tour ou deux tours. Le grand favori, on va en parler, c'est Éric Ciotti, le député des Alpes-Maritimes. Et si vous n'avez pas suivi de près cette campagne des Républicains ces derniers mois, c'est vrai qu'elle n'a pas fait les grands titres des journaux. Eh bien, voici un résumé avec Alexis Cuvillier dans cet épisode que nous enregistrerons le mardi 29 novembre à 16h. Salut Alexis.
Salut Philippe.
Est-ce que nous aurons, d'ici les prochains jours, d'ici ce week-end, le nom du nouveau président des Républicains? On va le dire, Éric Ciotti est largement favori. Est-ce qu'il peut être désigné dès le premier tour, c'est-à-dire dès dimanche?
C'est un scénario qu'on ne peut pas totalement exclure dans les élections, et notamment les élections internes. On l'a vu, il peut souvent y avoir des surprises. De l'avis de tout le monde...
Il y avait une surprise Ciotti l'année dernière, puisqu'il est arrivé en tête du premier tour.
Indéniablement une surprise Ciotti l'année dernière et que peu de monde avait vu venir, d'où la prudence de beaucoup d'observateurs de la droite cette année. On sent au sein du parti aussi que ce scénario n'est pas totalement exclu, parce que Éric Ciotti bénéficie de nombreux soutiens et très puissant, notamment dans certaines fédérations, et bien sûr la sienne, la Fédération des Alpes-Maritimes. Le scénario le plus vraisemblable, c'est qu'on se dirige vers un second tour qui opposerait Éric Ciotti à Bruno Retailleau, le patron des sénateurs LR. Réponse dimanche soir.
Et Aurélien Pradier, qui est le troisième candidat, appellerait ou pourrait en tout cas indiquer que lui préfère voir Éric Ciotti président du parti.
C'est ce qu'on a entendu et lu par endroit. Aurélien Pradier réussit plutôt une bonne fin de campagne de l'avis de beaucoup à droite. Il a réussi à marquer sa différence à plusieurs reprises par rapport aux deux autres, à se faire connaître. Ouais. C'est lui qui clairement avait le plus à jouer cette carte-là depuis le début de cette campagne. Et il l'a fait avec beaucoup d'engagement. Ça a parfois un peu même étonné certains qui pensent qu'il a pu réussir à parler, que son message a pu passer auprès de certaines sections d'adhérents et de militants LR dans certaines régions. Donc on verra le score qu'il réalise. Mais bien sûr, si le scénario c'est un second tour Retailleau-Ciotti, la prise de position du troisième, et en l'occurrence d'Aurélien Pradier, elle sera cruciale.
Alors, dans cet épisode, j'aimerais qu'on revienne en fait sur cette campagne, avec beaucoup de guillemets, des Républicains, puisque ça n'a pas fait la une des médias, ça n'a pas fait les gros titres de l'actualité, mais il y a une campagne qui a débuté à la fin de l'été. Éric Ciotti était déjà en campagne, même pendant l'été, Éric Ciotti était déjà candidat et menait campagne. Qu'est-ce qui s'est passé au sein des Républicains ces derniers mois qui n'a peut-être pas été... repéré par ceux qui suivent l'actualité politique d'un peu loin, quels ont été les principaux thèmes? Comment s'est opéré ce rapport de force?
En réalité,
je te fais résumer en quelques instants plusieurs mois de campagne.
En réalité, moi, je trouve que le moment fort aussi de cette campagne, c'est pendant l'été, c'est au mois de juillet, c'est quand on apprend que Laurent Wauquiez ne sera pas candidat dans cette élection interne, parce que beaucoup pensaient qu'il allait peut-être choisir ce scrutin pour se relancer, pour revenir au devant de la scène
comme
politique nationale.
2017,
exactement, comme après 2017. Et en fait, lui a dit :« J'ai déjà vécu la direction d'un parti. parti. Ça s'est pas très bien terminé à l'époque des élections européennes de 2019.
Puisqu'il
il avait dû démissionner. Et donc, il a choisi de passer son tour. Et à ce moment-là, il y a quelque chose qui s'est mis en place autour d'Éric Ciotti, qui a complètement affirmé qu'en fait, lui, c'était le candidat de Wauquiez. Wauquiez l'a laissé faire, a fait des meetings avec lui encore très récemment, des réunions publiques avec lui, il y a quelques jours, du côté de Valence. Éric Ciotti ne veut pas du tout qu'il y ait le moindre malentendu là-dessus. Si lui, il est élu, il veut faciliter le plus possible le lancement de Wauquiez pour 2027 et pour la prochaine présidentielle.
Et ce qui se passe en fait, c'est qu'il a réussi à imposer l'idée, ou en tout cas à faire passer l'idée en interne, que voter Ciotti, c'est voter pour la désignation de Wauquiez à la présidentielle 2027 et au fond évacuer dès maintenant, dès la fin 2022, la question de la désignation du candidat pour la prochaine élection présidentielle. Et on sait que ça avait été très compliqué pour les deux dernières présidentielles. Ça a laissé un mauvais souvenir aux militants. La primaire élargie de 2016 avec Juppé, Sarkozy, Fillon notamment, qui a laissé des traces. Et puis l'année dernière, ce congrès qui n'était pas exactement une primaire et qui était limité aux militants, mais avec Bertrand, avec déjà Ciotti, Pécresse, évidemment, qui j'ai oublié, Barnier, j'en ai oublié un autre, non ?
Je crois qu'on les a tous dit.
Ah ben non, il y avait Philippe Juvin aussi.
Pardon.
Enfin, Philippe Juvin, Philippe qui est député maintenant des Hauts-de-Seine, qui là aussi a laissé un mauvais souvenir aux militants. Donc, au fond, Ciotti a fait campagne aussi avec l'idée, au fond, écartons cette question de la désignation. Si je suis le président du parti, ce sera Wauquiez le candidat. Et donc c'est aussi ça qui se joue ce week-end.
Et il a imposé ça comme un thème dans la campagne. Parce que là, on parle d'une élection qui est interne, avec des enjeux pour l'avenir du parti. Et donc, il a réussi à faire exister ce sujet, ce qui était assez habile de sa part, puisque Laurent Wauquiez est très populaire parmi les militants de LR. Que ça a un peu gêné Bruno Retailleau, qui avait moins envie de se positionner par rapport à lui. Peut-être, certains disent, pour préserver son propre avenir personnel.
Pour être éventuellement candidat.
Pour être lui-même éventuellement candidat en 2027. Tandis qu'Aurélien Pradier, lui, sur cette question, a dit qu'il constatait en effet que c'était Wauquiez qui se préparait le plus, qui travaillait le plus pour cette élection, mais qu'il estimait, Aurélien Pradier, que c'était une mauvaise idée que le candidat à la présidentielle s'installe déjà dans cette position dès début 2023, puisque ça l'exposait trop, ça risquait de le griller s'il y avait d'aventure des obstacles sur le chemin.
Oui, un des responsables importants de LR me racontait comment est-ce que Laurent Wauquiez ronge son frein. C'est-à-dire que ça fait plusieurs années qu'il s'est mis, je dirais pas en retrait de la politique nationale, mais en tout cas se tient à distance de la politique nationale. Il n'a pas donné d'interview radio ou télé sur la politique nationale, purement sur la politique nationale, depuis 3 ans et demi maintenant. Il donne régulièrement des interviews à la presse écrite, notamment au Figaro, quand je dis régulièrement, quelques fois par an, où il parle de politique nationale. Il donne aussi des interviews, il l'a fait parfois sur BFM TV, mais pour parler de sa région, la région Rhône-Alpes. Mais il évite de participer, de s'user en faisant des émissions politiques, en faisant des matinales. Il veut réserver, entre guillemets, sa parole pour le moment où il va revenir dans l'atmosphère et laisser entendre qu'il se prépare pour 2027. Mais un haut responsable LR me disait, mais il faut comprendre, c'est comme un lion en cage. C'est-à-dire que ça fait plusieurs années qu'en fait, qu'il fait le tour de Rhône-Alpes, qu'il fait le tour des entreprises, qu'il fait un travail de terrain. Il pense, il doit maintenant gérer le moment où il va revenir dans l'atmosphère, où il va apparaître aux yeux des Français, comme en tout cas se présenter devant les Français, comme un possible futur candidat et futur président de la République. Et il ne faut pas qu'il rate ce moment. C'est pour ça qu'il faut qu'il aborde, qu'il gère bien ce retour dans l'atmosphère de la politique nationale. Mais il n'attend que ça, quoi. Il n'attend que ça. Et c'est pour ça que, selon ce haut responsable, Éric Ciotti était en bonne situation pour être désigné président du parti par un militant. Il y a combien de votants, d'ailleurs, ou combien de, au fond, ce président du parti va être désigné par combien de votants? Quelques dizaines de milliers?
Le parti s'était félicité lorsque le corps électoral a été fixé début novembre. Le parti s'était félicité d'avoir réussi à refaire venir environ 40 000 personnes depuis la dernière présidentielle. 90 000 adhérents qui sont à jour de cotisation, un tout petit peu plus, 91 000 je crois. Ce qui est objectivement un chiffre qui est plutôt pas mal vu le panorama et les difficultés des partis politiques à attirer vers eux.
Que ce soit le vote à Renaissance, le vote chez les écolos, on l'a vu ces derniers jours, où ils étaient finalement que quelques milliers de votants. Le RN non plus n'a pas attiré, était à moins de votants que ça. Donc c'est pas déshonorant par rapport aux autres partis.
Pas du tout déshonorant, et ça vient toujours donner des arguments pour répondre à cette fameuse l'idée que la droite serait morte. Ouais. Eux sortent chez les Républicains, on sort le résultat moins pire entre guillemets que prévu aux dernières législatives, et donc ce chiffre du nombre d'adhérents qui, comme tu l'as dit, n'est pas déshonorant. Le parti s'attend à ce que la participation soit autour de 70% au sein de ce corps de 90 000 adhérents. Donc on peut estimer peut-être que, oui, c'est ça, 70 000 environ, peut-être un peu moins, je ne suis pas très fort en mathématiques, 70 000 adhérents pourraient aller se prononcer entre samedi et dimanche.
On va partir du principe, ou en tout cas on va partir de l'hypothèse qu'Éric Ciotti va être désigné président du parti. Alors ce sera peut-être pas au premier tour ce week-end, mais dans quelques jours plus tard au second tour. Politiquement, qu'est-ce qu'il représente Éric Ciotti dans le parti, dans l'équilibre du parti, dans l'équipe de la droite? Il a eu une image, ou certains diraient une caricature, depuis plusieurs années, sur les questions, en tout cas positionnées plutôt à la droite du parti. On l'entendait beaucoup sur les questions d'immigration, de sécurité. Il a fait l'effort, même si là encore ça n'a pas fait la une des journaux, mais il a fait l'effort de, je dirais pas de se recentrer, mais en tout cas d'être présent sur d'autres thèmes, notamment sur la fiscalité, et pour compléter d'une certaine manière son image politique en interne.
Oui, c'est ça. Certains parlent aussi de recentrage, en fait. Hein. Toi, tu reprends pas le mot, mais certains ont remarqué, en effet, qu'il avait tenté de se recentrer. D'abord,
j'utilise pas le mot parce que je suis pas certain qu'il ait renoncé à ses positions sur l'immigration ou la sécurité.
Non, pas du tout.
Au contraire. Il complète ça, je pense.
Il continue de les affirmer, mais c'est vrai qu'il a, par exemple, gérer avec prudence sa réaction au moment de cette polémique, tu sais, qui a impliqué ce député du Rassemblement National.
Sur le qu'il retourne en Afrique,
voilà,
lancer un député NUPES.
Alors que Bruno Retailleau disait « si on parle du bateau, je vois pas le problème ». Grosso modo, c'était la position de Bruno Retailleau. Éric Ciotti, lui, a eu une position beaucoup plus mesurée.
Est-ce qu'il n'a pas fait une erreur à ce moment-là? Enfin, du point de vue de l'élection interne stratégique, est-ce qu'il n'a pas laissé, il s'est pas laissé déborder par Bruno Retailleau?
C'est probable. En tout cas, c'est un moment dans la campagne où on a estimé que Bruno Retailleau avait repris un peu de points là-dessus, et puis qu'il avait pu réussir à parler peut-être à certains adhérents. Du côté d'Éric Ciotti, difficile de savoir si c'était complètement calculé, ce petit pas de côté. Mais ça a renforcé un peu cette idée qu'il essayait d'être peut-être plus mesuré et de parler davantage à l'ensemble des adhérents, même aux adhérents qui sont encore présents, qui sont plus de tradition chiracienne, par exemple. Et il y a autre chose, moi, qui m'a frappé là dans l'interview qu'il a accordée aux Échos, c'est quand on lui pose la question sur la phrase l'année dernière où il affirmait qu'il pourrait voter Zemmour.
Contre Emmanuel Macron,
il répond un peu différemment cette fois. Il dit « c'est une phrase que j'ai prononcée dans un contexte électoral particulier », d'un air de dire « peut-être que je ne le redirai pas aujourd'hui », même s'il ne dit pas ça. On voit qu'il est plus prudent. Il dit par exemple que dans sa position de questeur à l'Assemblée nationale, c'est pas quelqu'un qui est fermé, c'est quelqu'un qui peut être ouvert. Peut-être donc que là-dessus, il joue un peu une carte. On sait aussi que dans un parti comme les Républicains, il faudra de toute façon être rassembleur après l'élection, parce qu'il y a dans cette famille politique un certain nombre de rivalités, pour pas dire pire. Donc il va falloir essayer de faire rester tout le monde dans le même bateau. Ça sera pas simple.
Oui, et pour compléter ce que tu disais, au fond, il a fait la campagne l'année dernière en interne, en sachant qu'il ne serait probablement pas désigné candidat, et donc c'était d'abord pour peser au sein de l'appareil, et pour cela il a pris la position, le choix d'être le plus à droite des candidats. Et puisqu'on était en pleine envolée dans les sondages d'Éric Zemmour, d'une certaine manière, il a fait sa campagne sur Zemmour. Il était la version Zemmour-Light, au fond, au sein du parti pour les adhérents des Républicains. Là, il est dans une position très différente puisqu'il est le favori. Il sait que donc, s'il ne fait pas trop d'erreurs, il va être désigné président du parti. Et donc, il va devoir gérer ce parti. Et le temps qui reste avant la présidentielle, c'est-à-dire 4 ans et demi, et donc il va devoir aussi engager parfois un rapport de force avec le gouvernement, obtenir telle ou telle avancée ou rentrer parfois dans une négociation avec le gouvernement sur, il y a des sujets qui arrivent, les retraites, l'immigration, et qu'il ne peut pas être caricaturer uniquement sur des positions qui seraient à la frange du parti. Il veut être un point d'équilibre du parti. Et c'est pour ça qu'il a essayé notamment de... Alors tu dis recentrer, moi j'avais pas repris le mot, mais au fond c'est peut-être le mot le plus simple, de compléter son image sur certains sujets. Qu'est-ce qu'on... Il y a une scène que tu m'as racontée, je sais pas si on peut la raconter là. À Colombey, ce qui s'est passé à Colombey, on peut le raconter ou pas? Bon, disons qu'ils sont tous allés à Colombey, puisqu'il y avait l'anniversaire du décès du général de Gaulle, c'était le 9 novembre, c'est une tradition, tous les ans le parti envoie des gens à Colombey, mais ils n'avaient pas pensé prévenir le président de la région, Grand Est, qui est Jean Rottner, qui est Macron compatible, en tout cas qui a une position plus ouverte sur le gouvernement, et ça c'est l'un des sujets qui va devoir être réglé par le nouveau président du parti, c'est de aussi de gérer ceux, ils sont peu nombreux, mais ceux dans le parti, et notamment dans le groupe parlementaire, qui veulent être dans une position un peu plus constructive avec le gouvernement. Ils sont quoi, une dizaine au groupe, dans le groupe parlementaire, une 9,
environ
9-10, et qui sont potentiellement... alors que si le parti est sur une position trop dure avec le gouvernement, qui pourrait partir du parti. Et il y a un électorat qui existe, qui est en partie déjà... qui a déjà voté Macron, ou qui pourrait être tenté demain par Édouard Philippe. Il y a aussi cet électorat-là qui compte. Éric Ciotti ne peut pas... d'une certaine manière, il sait qu'une partie de son électorat écoute Emmanuel Macron, écoute la majorité avec une certaine, un certain intérêt, ou en tout cas sur des questions comme les retraites ou les questions économiques, ne sont pas en opposition frontale avec ce que fait le gouvernement.
Pendant cette campagne interne, il y a quelques semaines, Jean-Luc Moudin, qui était le dernier maire, Les Républicains, d'une des plus grandes agglomérations de France, puisque dans les autres grandes agglomérations, il n'y a plus de maire LR, il a annoncé qu'il partait du parti. Et là, c'est la représentation de ces personnalités qui ont pu montrer parfois des signes de proximité avec Édouard Philippe. Je pense par exemple dans le cas particulier du maire de Toulouse, personnalité qui ne se retrouve plus dans LR aujourd'hui. Et ça pose un certain nombre de questions. Il va falloir limiter la casse. De l'avis général, le cas d'une élection d'Éric Ciotti ne créerait pas de départ forcément massif, en tout cas pas tout de suite.
Et c'est déjà une victoire pour Éric Ciotti ?
Oui, c'est déjà une victoire. On remarque aussi que, par exemple, les gens qui partent, toujours cet exemple de Jean-Luc Moudin, ou aussi on peut penser à la présidente de la région Pays de la Loire, Christelle Morançais, sont des gens qui partent mais qui ne vont pas ailleurs pour l'instant, qui attendent un peu de voir ce qui va se passer, comment la droite va se recomposer. Donc voilà, ça sera évidemment un enjeu de limiter les départs et les ralliements à Emmanuel Macron.
Je peux te raconter une discussion que j'ai eue hier avec un ministre important qui vient de la droite, qui vient des Républicains et qui pense aussi à l'avenir et notamment à 2027 et qui me disait attention à ne pas caricaturer Éric Ciotti et à imaginer que Éric Ciotti va garder la place au chaud pour Laurent Wauquiez pour 2027. C'est peut-être ce qui va se passer, mais ça n'est pas totalement gravé dans le marbre et qui n'excluait pas l'hypothèse, ça n'était qu'une hypothèse, mais qui n'excluait pas l'hypothèse que, en fonction des circonstances, dans une deuxième partie du quinquennat, si l'espoir d'un rapprochement entre la majorité et LR, esquissé par Nicolas Sarkozy, par Jean-François Copé, aller au bout, eh bien, Éric Ciotti puisse avoir intérêt à ce moment-là à négocier un accord de gouvernement avec la majorité. Bon, ça n'était qu'une hypothèse, et peut-être que c'est un espoir, et ça n'est qu'un espoir d'une partie de la droite de la Macronie, mais néanmoins, il y a toujours cette hypothèse qui est au-dessus, qui est en l'air, c'est est-ce que, à un moment donné, d'ici 2027, il peut y avoir... Il n'y a pas un rapprochement LR Renaissance Modem Horizon, mais on l'a vu sur certains textes ou sur la plupart des textes. Au fond, la majorité est ouverte aux suggestions avancées par LR. Et il y a deux textes importants qui arrivent à l'Assemblée en janvier, enfin à l'Assemblée et au Sénat, les retraites et l'immigration. Et ces deux textes ne pourront passer qu'avec les voix LR. Et donc, d'une certaine manière, il y a, je dirais pas une cohabitation ou une colocation, mais il y a un travail de fait qui existe au quotidien, un dialogue au quotidien entre la majorité et LR. Et ça compte aussi dans ce qui va se passer au parti.
Alors aujourd'hui, on n'est pas du tout dans l'hypothèse que tu évoquais. En tout cas, Éric Ciotti, lui, ne parle pas du tout de ça. Et on sent évidemment, pour l'intérêt des Républicains, qu'il faut garder une frontière assez nette par rapport à la Macronie. Il ne faut pas oublier qu'Éric Ciotti est visiblement, de l'avis de beaucoup de sarkozystes, le candidat qui a la préférence du clan sarkozyste. Clan sarkozyste où Nicolas Sarkozy a lui dit qu'il croyait beaucoup à cet accord de gouvernement, qu'il continue des ministres LR au gouvernement. Donc ça, en effet, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Éric Ciotti, quand on lui pose la question de son soutien à la réforme des retraites qui sera proposée par le gouvernement, il reste prudent, il dit qu'il ne connaît pas encore le texte, mais évidemment, il n'est pas opposé sur le principe. C'est la défense d'un âge éventuellement de départ à la retraite qui soit plus élevé qu'aujourd'hui, donc une proposition qui est reprise à la droite. Éric Ciotti, lui, dit qu'il va falloir peut-être introduire certaines modalités pour prendre en compte certains choix de vie, certaines durées de carrière longue, par exemple. Mais on voit que là-dessus, évidemment, il pourra y avoir des ponts qui seront dressés par rapport aux Républicains, entre les Républicains et la majorité.
Et pendant que les députés discuteront des retraites, les sénateurs au même moment discuteront de l'immigration. Et là, on a bien vu à quel point Gérald Darmanin a voulu souligner le fait qu'il s'était inspiré d'un rapport d'un sénateur LR, M. Buffet, qui est sénateur du Rhône, pour construire sa loi, en tout cas une partie de sa loi immigration. Et donc on voit bien que sur ces deux sujets, peut-être les deux textes les plus importants des prochains mois à l'Assemblée et au Sénat, eh bien, il y a déjà, au fond, un dialogue LR-majorité qui est très intense. Et c'est pour ça qu'il faut aussi avoir ça en tête pour comprendre ce qui va se passer aux Républicains. Merci, Alexis.
Merci.
Merci d'avoir suivi cet épisode. On se retrouve dans les prochains jours.